En sol majeur vous propose cette rediffusion.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Mais je vous en prie, entrez, installez-vous dans l'univers de Blaise Ndala. J'espère d'ailleurs que vous avez le cœur musclé, prêt à monter sur le ring. Car en lisant son roman « J'irai danser sur la tombe de Senghor », vous allez rentrer dans l'univers impitoyable de Kin, la ville des kinoiseries, avec ses foula-foula, ses taxis collectifs, ses proverbes qui ont du chien, son mépris pour le lingala de Broussard, son mobutisme mégalo, ses gardiens du peuple et le fameux combat du siècle entre George Foreman et Mohamed Ali. Mais je vous en prie, installez-vous dans l'ironie de cet auteur quarantenaire qui, de Kinshasa à Ottawa en passant par Bruxelles, cultive l'art d'être libre et multiple. Bonjour Blaise Ndala.
Bonjour Yasmine.
Est-ce que vous êtes du genre à cultiver votre jardin façon Candide ?
Façon Candide, je ne sais pas, mais avec beaucoup d'insouciance, de légèreté et de liberté, hein, comme vous le disiez à l'intro. C'est comme ça que je vais, c'est comme ça que je plante mes mots ici et là.
Façon Candide, c'est-à-dire vaut mieux avoir petit, une petite maison, plutôt qu'un château, et cultiver amoureusement et positivement le peu qu'on a. Est-ce que c'est votre philosophie à vous ?
Je pense que oui, je l'épouse bien, cette philo-là. Je pense que je fonctionne comme ça.
Bon, sur le papier en tout cas. Est-ce que cette philosophie, vous pensez qu'elle marche dans un coin du continent qui s'appelle Kinshasa ?
Elle marche. Je pense que tout est possible à Kinshasa. Chacun, certes, amène sa propre philosophie, qu'on appelle en fait en langage kinois idéologie, qui n'a rien à voir avec l'idéologie du mobutisme, du libéralisme, ainsi de suite.
Ça fait peur le mot idéologie, oui.
Ça peut faire peur parce que oui, on peut y loger tout et n'importe quoi. C'est un peu un mot bateau dans lequel on met aussi bien le coup tordu que l'on prépare pour le voisin que le super bon plan qu'on a conçu et qui permet de s'en tirer en vertu de ce qu'on appelle là-bas l'article 15. Donc voilà, c'est un terme qui souligne assez bien, je trouve, cette capacité qu'ont les Kinois à tout réinventer et à partir souvent de rien pour parvenir à des sommets et parfois même à des abysses.
Bon, ben, on a déjà un petit pied, alors en fait, dans la rumba congolaise de cette ville et dans la rumba de Taboulé Rochereau que vous avez programmée en sol majeur. Pourquoi son morceau Micheline, qui est charmant hein, d'ailleurs ?
Très très beau morceau, parce que Micheline... En fait, elle évoque la période du combat de boxe et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je pense que parmi les tubes que Rochereau va jouer le 30 octobre avant le combat de boxe, parce qu'il y avait un festival de musique sur lequel on reviendra, il y a ce morceau aussi. Cet album sort cette année-là et ça a un charme fou.
Baboka, tozalinga na yonseye, mpenayebi, mokolo mosusu toko monana. Michelina, osalise comme une yokola bamba. Pona kolelanga, nazali kaka, mopaya, na kole kandela. Michelina, mokile zali pe monene, ngomba na ngomba, ya solo bako kutana kate, moto ose na moto, bazali na nzela kotambola, lobi na lobi, Michelina toko monana. Michelina, mokili ezali pe monene, ngomba na ngomba. Ya solo bako kutana kate, moto ose na moto, bazali na nzela kotambola,
lobi na lobi, Micheline toko monana, Micheline, Micheline, nakangi motema mpoto tikana, eko kendenga ima etoni na misope na motema, na polela yo, Mike, Mike, Micheline, nakangi motema mpoto tikana, na mikono mibale okotelinga na motema.
Le charme du micro-sillon sépia qui gratouille sur RFI avec Taboulet Rochereau. C'est un peu le crooner des années 60-70 programmé par notre invité Blaise Ndala. Vous n'avez même plus la même expression. Vous avez même une danseuse imaginaire dans les bras quand vous entendez ça, Blaise.
Mais effectivement, ça me berce. Et ça m'a bercé longtemps, cette chanson, en fait, pendant que j'écrivais ce roman. Donc, je voulais me remettre dans l'ambiance de cette période-là. Et cette chanson est passée en boucle. C'est pour cela que cette réminiscence m'a amené à esquisser quelques gestes pendant que je jouais la musique dans le casque.
Blaise Ndala, donc auteur ottavien, installé à Ottawa, au Canada, mais né dans le Zaïre de Mobutu. Et Blaise, je crois savoir que vous vous souvenez chaudement de son discours du 24 avril 1990, lorsqu'il annonce sa volonté d'instaurer le multipartisme après 25 ans de règne sans partage.
Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire.
G.
Comprenez mon émotion.
J'ai comme le grand soir.
L'émotion du maréchal Papa vous fait rire, Blaise Ndala.
Mais ça me fait rire parce qu'il y a eu toute une histoire autour de cette déclaration phare, la fameuse phrase Comprenez mon émotion, précédée par cette décision que Mobutu prend ce jour-là de prendre congé du MPR, le parti unique, le parti État de l'époque. C'est qu'il oublie en ce moment-là, c'est que constitutionnellement, il n'est chef de l'État que parce qu'il est président du MPR. Donc automatiquement, monsieur vient de se faire le coup d'État le plus ubuesque de l'histoire de la politique.
Son propre putsch.
Son propre putsch, en fait. Alors il faudra toute l'ingéniosité et la mauvaise foi de ses conseillers constitutionnalistes pour essayer de rétro-pédaler et trouver le moyen de le remettre en selle. Mais c'était très facile. La démocratisation était encore balbutiante. L'opposition n'avait pas encore sorti les grands crocs, comme on allait le voir dans le mois qui allait suivre.
Mais il faut peut-être rappeler ce qui amène ce maréchal Papa, dictateur intraitable, à annoncer la fin du parti unique. C'est une période particulière. On est en 90.
Alors, c'est qui arrive à sa source en 82 en réalité. Un événement majeur dans l'histoire de la Deuxième République, c'est la fameuse lettre des 13 parlementaires qui vont être à l'origine de la création du premier parti politique de l'histoire du Congo mobutien, on va dire, qui est l'UDPS, hein, le parti créé entre autres par le père de l'actuel président Félix Tshisekedi. Et donc, entre 82 et 90, entre clandestinité, arrestation, en bastillement et tout ça, ce parti va donc mobiliser une partie des Zaïrois et va contraindre le régime en fait à organiser les consultations à l'issue desquelles on constatera cette aspiration des Zaïrois à passer au multipartisme.
Mais ça, c'est une histoire de politique intérieure. Mais sur le plan international, il faut rappeler que le mur de Berlin vient de tomber. Et puis, 6 mois plus tôt, le dictateur roumain Ceausescu, dont il était ami d'ailleurs, vient d'être Absolument. Liquidé avec sa femme devant les caméras du monde entier. Ça travaille Mobutu. Il se dit le vent de l'histoire est en train de tourner.
Effectivement, et d'ailleurs, vous faites bien de rappeler la mort de Ceausescu en particulier, parce que cela a donné lieu à une scène assez insolite dont parle l'un des anciens conseillers de Mobutu, qui s'appelait Sakombi Inongo, qui a été longtemps son conseiller en communication, qui va donc laisser passer les images de ce lynchage du couple sur ses coups. C'est qu'il lui vaudra une volée de bois de la part du dictateur. Tu dis que tu ne pouvais pas montrer cela, parce qu'il a pu voir à travers ce massacre ce qui pourrait lui arriver au cas où il n'arrivait pas à contenir cette soif soudaine de liberté qu'exprimaient les Aïrois.
Autre curiosité, on va dire, Blaise Ndala, est-ce que ça choquait à l'époque certains Aïrois que Mobutu fasse ses discours en français ?
Absolument pas. Pour les Aïrois à l'époque, comme aujourd'hui, le français, c'est la langue officielle, c'est la langue que les Noko, comme on les appelle les Belges et les oncles, nous ont laissé. La politique s'est faite principalement en français. Même si Mobutu était polyglotte et puis parlait les quatre langues nationales, plus ou moins, Lingala, Swahili, Chiluba et Kikongo, davantage de Lingala, mais les annonces les plus importantes, il les faisait en français. Donc c'était même la tradition de l'entendre parler français.
Alors en 90, vous avez 18 ans, vous, et depuis toujours, vous avez donc vécu dans les interdits et selon la loi du mobutisme. Est-ce que ce fameux 24 avril 1990, vous vous autorisez des choses qui étaient interdites jusque-là ?
Ah oui, la première, je m'en souviens très bien, étant de porter la cravate. Ça peut paraître très banal.
Et vous n'avez pas... parce qu'il fallait ranger à l'époque ce qu'on appelait l'abacoste, c'est-à-dire le costume à l'occidental.
L'abacoste est en fait l'anti-costume à l'occidental. Donc c'est ça qui vient remplacer hein, le costume à l'occidental. C'est calqué sur le costume de Mao Tse-tung, avec le col Mao, comme on l'appelle, qu'il va imposer pour en fait ancrer sa fameuse idéologie. Abat le costume, donc vive l'authenticité. Et ce jour-là, en l'occurrence, ben, les gens vont sortir, juste après ce discours, ils vont sortir de leur placard le costume à l'occidental qu'ils avaient gardé, ainsi que les cravates, pour signifier qu'ils étaient désormais libre.
La cravate anti-révolutionnaire.
Exactement.
Alors votre enfance, elle a été marquée donc par cette folie révolutionnaire, je crois qu'on peut le dire comme ça, de Mobutu.
Absolument. Et moi, je n'ai pas honte de les dire aujourd'hui, puisqu'on était tous dans ce moule. J'étais ceux qu'on appelait les pionniers de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Et dans mon école primaire comme secondaire, ceux qui étaient avec moi à l'INFRA, à l'Institut de la Fraternité dans la ville de Kikwit, le savent. J'étais le jeune homme qui passait devant ses condisciples pour lancer les slogans « La gloire des Mobutu » et entonner les chants du parti et faire lever le drapeau. Je l'ai fait pendant des années.
Un slogan comme ça qui vous reste en mémoire ?
Tatabo, ça c'est en lingala, moko, donc un seul père. Mamabo, moko, ekolobo, moko, partibo, moko. Donc un seul père, une seule mère, une seule patrie, un seul chef, Mobutu.
Rien. Alors, voilà. Votre enfance, cher Blaise, se déroule à Lusanga, c'est donc à l'ouest de la RDC, et elle a été, on va dire, plutôt catholique et littéraire.
Oui, on peut résumer les choses comme ça, oui, effectivement. Mes deux parents étaient catholiques avec un père qui, lui, était plus littéraire que catholique parce qu'il n'allait presque jamais à l'église. Hein. Oui, c'était ça, deux parents enseignants à Lusanga. Après, ils vont bouger, on va bourlinguer un peu au gré des mutations.
Votre père partit assez tôt, je crois. La vie devient difficile pour votre mère qui touche une misère en tant qu'enseignante. Comment est-ce qu'elle boucle les fins de mois ?
Elle boucle les fins de mois en faisant deux choses, aussi loin que je m'en souvienne. Elle fabrique du pain, je l'aide à fabriquer du pain qu'elle vend dans différents marchés, notamment au marché de Bualayulu, près de la mission catholique de Yassa. Et un peu plus tard, elle va à 200 km à peu près de Yassa pour aller acheter du poisson séché pendant les vacances qu'elle revient vendre pour avoir justement de quoi payer mes frais d'études à moi et à mes sœurs.
On est dans ce Zaïre guidé, si j'ose dire, par cette idéologie de l'authenticité, dans ce Zaïre où vous vous appelez Blaise. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est un prénom authentique, Blaise ?
Ah, absolument pas. La preuve, c'est que Blaise ressuscite après le 24 avril, après les discours qu'on a entendus. Et non,
vous appelez comment alors avant ?
C'est un peu drôle parce que je n'utilise plus du tout ce nom-là, en fait, un petit surnom que mes parents m'ont donné quand j'étais petit. Mon père et ma mère sont les seuls à continuer à l'utiliser, ainsi qu'une poignée d'amis. On m'appelait Love. Ce n'était pas un prénom chrétien, donc c'était sauf du point de vue du mobutisme. Parce qu'à la base de l'authenticité et de l'abrogation des prénoms chrétiens, il y a une bisbille entre Mobutu et l'église catholique locale. Il est en froid, voire plus, avec Monseigneur Joseph Malula, et qui devient pour lui, en dehors de toute opposition politique, la figure de l'opposition. C'est lui qui conteste le mobutisme et qui conteste le culte, la personnalité instaurée par les dictateurs. Et pour punir et dire à Malula qu'il peut aller se faire voir au Vatican, ben il abroge ses prénoms.
Donc lorsqu'arrive le multipartisme, entre guillemets, on va dire, dans ce Zaïre, vous dégainez donc le prénom de Blaise et la cravate.
Absolument.
On a l'image.
Je ressors Blaise des placards, je ressors la cravate, même si je ne sais pas comment la nouer, mais je ne suis pas le seul dans ces situations. Hein. Mon père non plus ne sait plus comment nouer sa cravate. Et puis on répare. Mais jusqu'au jour où, finalement, on se rend compte que Mobutu lui-même, qui avait dit « Quant à moi, vous ne me verrez jamais en cravate », eh ben, un jour, il apparaît à la télé avec une cravate. Hein. C'est dire... Quel farceur il était.
Est-ce que vous pensez qu'il vous a fallu dépasser le trauma des années Mobutu pour arriver à signer ce roman que j'ai devant moi, J'irai danser sur la tombe de Senghor?
Absolument, parce que l'idée d'écrire ce roman traînait dans ma tête depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il a fallu que je digère ce trauma. Et vous faites bien d'utiliser le mot trauma, parce que moi j'ai vécu aussi dans ma chair quand même, dans l'intimité de ma famille, ce trauma-là. Très très rapidement, on est en 92, j'attends que l'université de Kinshasa rouvre ses portes. L'université qui a été fermée pour des raisons justement politiques par Mobutu. Et là, on est en Mbandaka, la ville où Mobutu a fait son secondaire, là où on l'a chassé de l'école des prêtres, qui l'a amené à se retrouver à Léopoldville pour devenir le militaire qu'il deviendra. Je suis là-bas et dans la nuit du 14 juin exactement, des militaires de la division spéciale présidentielle font irruption chez mes parents. Ils vont tout mettre à sac, ils vont dévaliser tout. Mon père sera à genoux cette nuit-là à les supplier de leur laisser la vie sauve.
Pourquoi alors? Vous savez le fin mot de cette affaire?
Oui, mais tout simplement parce qu'il y a une tension, il y a un climat des xénophobies qui frappe un peu beaucoup de coins de la République. Et chez lui, on parle des non-originaires qui doivent décamper, retourner chez eux. Mon père est à la SNEL, Société Nationale d'Électricité. Il est parmi les cadres là-bas. Il est vu comme l'étranger qui a un bon poste ici. Alors le pauvre, il n'est pas payé depuis quoi? 3 ans à peu près. Donc les militaires pillent, ils mettent la main sur tout ce qu'ils trouvent, ils entrent chez les particuliers, là où ils pensent trouver des objets de valeur. Et cette nuit-là, ils viennent visiter mes parents. Et donc voilà, ils nous dépouillent de tout, ils laissent le bébé sur le sol. Et c'est parce que mon père s'est mis à genoux, ma mère est pareillement allée supplier de leur laisser la vie sauve, qu'ils s'en vont en tirant un peu partout. Et ça, moi, j'ai porté ça très 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 longtemps et j'en ai beaucoup, beaucoup voulu à Mobutu et à ses sbires. Et il fallait que tout ça se tasse et que je prenne la distance nécessaire pour parler de lui, presque avec sympathie, comme me l'ont fait remarquer certains lecteurs.
Oui, avec ironie en tout cas. Dans ce roman, J'irai danser sur la tombe de Senghor, c'est donc Kinshasa qui met ses gants de boxe. Kin qui se prépare à recevoir Forman et Mohamed Ali pour le combat du siècle. Combat qui est sans doute le symptôme d'une folie nationale et qui grouille jusque dans les entrailles de Kinshasa et que Modéro, votre petit héros, petit broussard, découvre à ses dépens très vite. Extrait.
M comme Marc Page.
Je m'appelle Modéro. Je demande un petit peu plus que mes voisins que vous avez approchés, madame. Pour la simple raison que mes produits sont de meilleure qualité. Ben, vous-même venez de constater la blancheur et la solidité des cossettes que vous avez palpées. J'en ai pris soin personnellement, c'est tout dire. Hé, doucement, mon petit villageois, m'interrompit-elle aussitôt. Pour qui te prends-tu? Ou plutôt, où te crois-tu, hein? Tu t'appelles Modéro? On m'appelle Mère 100 kilos. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ton manioc? Blancheur, tu as dit? Mes dents sont blanches. Ta pourriture de manioc, c'est tout sauf blanc. Ou alors tu me traites d'aveugle. J'ai de la merde dans les yeux. C'est bien ce que tu insinues? De la provocation, de l'intimidation, ou comme allait le dire un peu plus tard ma patronne actuelle, de la quinoiserie dans toute sa splendeur.
Blaise Ndala, on s'est arrêté en sol majeur à la page 22 de votre roman parce que ça donne tout de suite la température. Votre Modéro arrive de Banza dans le Kwilu, à plus de 500 km de Kinshasa. Chez lui, c'était une sorte de prince de la rumba et donc il tente Kin pour y faire de la musique. Mais en quelques heures, il est déniaisé, on va dire, à cause de ce que vous appelez les quinoiseries. Qu'est-ce que c'est que les quinoiseries ?
Les quinoiseries, c'est impossible à définir. Il faut atterrir à Kin, être le broussard, justement, qu'est Modero, pour en prendre la mesure. C'est tout un ensemble des pratiques rhétores, des brimades, qui sont le fait du quinois typique. Hein. C'est lui qui est insouciant, qui ne respecte aucune règle et qui va, comme ça, brimer quiconque vient de la campagne et ne comprend pas, ne maîtrise pas les codes de la ville.
Article 1, on va dire, des quinoiseries, la famille n'est plus la famille.
La famille n'est plus la famille, c'est chacun pour soi. Il y a une formule très 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 belle de mon ami et compatriote Fiston Mwanza-Mujila qui dit « Olali balalio », c'est en lingala, ça veut dire littéralement, mais ben, si tu te couches, ben, on te dort dessus. Donc c'est cette idée-là de dire « on ne se fait pas de cadeaux ici, quoi. Soit tu connais les codes et tu t'en tires, soit tu ne connais pas, moi je vais te les apprendre. »
Donc en quelques heures, votre personnage arrive chez son oncle et son oncle le dépouille dans son dos. Il y a d'ailleurs presque un proverbe dans votre roman qui dit « Akin, Dieu est dans le porte-monnaie ».
Exactement, Dieu est dans le porte-monnaie, parce que lui, il invoque Dieu, il invoque les saints, il invoque Marie, il dit « mais ça ne peut pas se passer comme ça ». Mais bon, son ami, Batécole, lui fait comprendre très rapidement, c'est lui qui joue un peu le rôle du mentor, c'est lui qui finira par lui faire comprendre comment Akin fonctionne, comment desserrer les taux de la quinoiserie, lui fait comprendre qu'ici, Dieu, il est dans le portefeuille, quoi. Il n'y a pas de charité, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de clan. Tout ça, il faut oublier ça aux portes de la ville, autrement, ta vie va être un enfer.
Donc c'est la règle numéro un, c'est ça, c'est le chacun pour soi, de façon cruelle, virulente et inventive, hein, il faut vous lire.
Absolument, mais après, dans le réel, vous trouverez aussi à Kinshasa des gens qui sont d'une grande solidarité. Il n'y a qu'à voir quand quelqu'un décède à Kinshasa et que la famille est pauvre, il y a toujours une dame, un monsieur qui commence une collecte et au bout, je ne sais pas moi, de 30 minutes, il y a toujours des gens qui n'ont parfois rien, mais qui vont donner le peu qu'ils ont pour qu'on achète un drap, qu'on achète de la boisson pour les gens qui viennent. Donc c'est plus nuancé que ça.
Oui, mais pour un romancier, c'est beaucoup plus inspirant de zoomer sur les dysfonctionnements.
Exactement.
D'une société.
Ah oui, parce que oui, ces côtés-là un peu foutraque de Kinshasa, moi je l'aime bien aussi, ouais. Donc j'aime bien cette espèce de désordre et de dérèglement. C'est ça aussi qui fait le charme de Kin. Et je suis passé par là parce que moi je ne suis pas né à Kinshasa,
vous êtes
comme vous l'avez
un
dit.
Un peu Modero d'ailleurs.
Ah oui, alors j'ai été aussi à ma manière.
Votre Modero qui déboule du village, donc le broussard, découvre aussi l'impact de l'authenticité sur une ville, sur une grande ville comme Kinshasa. Ça ne se vit pas de la même manière à Kin que dans le village.
Oui, ça ne se vit pas de la même manière. Lui, il vient donc de Mbanza, dans le Kwilu. Là, les villageois, ils sont plutôt, on va dire, globalement, plutôt soumis, plutôt obéissants aux règles. Le quinois, à Kinshasa, il est frondeur. Donc, il comprend comment les quinois jouent plus ou moins avec les limites qu'impose la dictature. Et ça va lui prendre un certain temps pour comprendre justement comment ça marche. Et la rencontre avec les deux agents de sécurité est assez éloquente là-dessus.
Alors oui, les agents qu'on appelle aussi des guêpes, ce sont les gardiens du peuple, ça rappelle les gardiens de la révolution en Iran.
En Iran. Hein,
d'ailleurs, on est dans ces zones-là, dans ces années-là. Les guêpes vont tomber sur le dos de Modero, le broussard, qui en fait, il y a une scène magnifique à ce moment-là, va se révéler avoir plus d'un tour fétichiste, je dirais, dans son sac.
Effectivement, parce que, comme il est dit, il n'y a pas plus superstitieux qu'un quinois, pour le meilleur ou pour le pire. Dans son cas, c'est pour le meilleur, parce que ça lui permet justement de sortir de son sac ce tour de passe-passe pour desserrer les taux de ces deux agents véreux qui veulent le dépouiller. Il a son sac, il a son argent dedans. Comme il ne sait pas quoi faire, il les défie en disant « mais vous n'oserez pas ouvrir ces sacs parce que autrement, mal vous en prendra ». Et puis là, il y a ce lézard qui sort du sac. Et bien lui, il ne savait pas du tout ce qu'il y avait dedans, mais il va quand même se servir de cette apparition pour leur faire croire qu'en fait, ce sont les pouvoirs de son grand-père qui vont…
Zangamoyo.
Et qui disparaissent dans la nature et que s'ils ne rattrapent pas ce lézard-là, ben… ils n'auront ensuite à blâmer que leur propre turpitude.
Donc la limite de la dictature, c'est la superstition.
Oui, l'une des limites de la dictature, c'est soit la superstition, oui, soit l'audace de celui qui n'a pas peur des crocs, des pics, des guêpes et qui peut les affronter.
Là. La dictature est là comme une chape de plomb. Modero va découvrir les discours du guide qui dure 5 à 6 heures et d'ailleurs avec des annonces parfois surréalistes.
Absolument. Le mariage de ceci, la naissance d'un enfant qui
oui, peut commencer
notre espace.
Sur l'annonce d'un petit enfant à lui et terminer sur la liquidation probable d'un journaliste qui est déjà dans ses geôles.
Exactement. Donc, il y avait ces genres de choses. Évidemment, ces faits-là sont tirés de la fiction, mais ils sont nourris par tout ce qu'on a entendu durant les discours de Mobutu. Les gens se souviendront, parfois il arrivait, on avait l'impression qu'il n'avait rien préparé, mais c'était un tribun redoutable. Il avait toujours le sens de la répartie, le mot qui vous fait rigoler pendant 2 heures. Il disait, j'ai pas beaucoup à dire, mais je suis venu pour que vous voyiez maman et que maman vous voie. Naïe, pour maman, mon abinon, bon, mon amaman. Et les gens éclataient de rire, alors que, on attendait des annonces pour la paix des salaires, des choses de ce genre. Mais il savait comme ça nous bluffer, sortir de sa toque des léopards, quelque chose qui dérivait de l'essentiel.
Il pouvait aussi sortir de sa toque de léopard des scènes de pendaison. Le peuple pouvait assister à ça.
Absolument. Et la scène dont je parle dans le roman, c'est une scène réelle, quoi. Il a convoqué quand même les gens à Kinshasa dans le stade du 20 mai, comme on l'appelait à l'époque, pour pendre publiquement ce qu'on appelait les pendus de la Pentecôte, des gens à qui il a imputé un coup d'État qui n'en était pas. Et donc voilà, il pouvait annoncer ça très très froidement. Et puis les gens venaient dans la ville et puis assistaient à une pendaison et repartaient chez eux.
Alors il y a une chose, Blaise Ndala, qui occupe les esprits cette année-là, c'est donc les gants de boxe. Sur la route de Ntsélé en partant de Kinshasa, on peut d'ailleurs lire sur un panneau géant écrit en très très gros caractères, « Super choc et combat du siècle, championnat du monde des poids lourds, Kinshasa le 25 septembre 1974 ». George Foreman contre Mohamed Ali, un cadeau du guide de la révolution au peuple zaïrois et un honneur pour l'homme noir.
Ali working to the head of George Foreman. Ali scores again with a light left hand. That time a straight left, another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. This is the most joyous scene ever seen in the history of boxing. This is an incredible scene. The place is going wild. Muhammad Ali has won. Muhammad Ali has won by a knockdown. By a knockdown.
Alors, je ne me suis pas trompée, Blaise Ndala. La date qui est écrite sur ces grandes affiches dans le Kinshasa de 1974, c'est bien le 25 septembre, alors que le combat a eu lieu le 30 octobre.
Ah oui, c'est vrai, l'annonce initiale sur les affiches et partout, c'était le 25 septembre. Mais comme je l'ai dit dans le roman, et là, c'est pas du tout inventé, George Foreman, donc le champion en titre, s'était blessé à l'arcade sourcilière pendant ses entraînements avec son sparring partner. Et donc, le combat avait été reporté au 30 octobre pour lui permettre d'avoir accès aux soins.
Alors, si vous êtes remonté sur le ring pour ce combat du siècle à travers votre roman, en fait, c'est pour nous rappeler ou peut-être même nous apprendre qu'en fait, en coulisses de ce combat, se joue un combat de coq entre Mobutu et Senghor.
Un combat de coq, effectivement, que je ramènerai aussi un peu à l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'une vache. La grenouille, pour moi, étant le guide de la révolution, Mobutu, qui, vexé par l'aura de Senghor, le père de la négritude, lui-même étant évidemment l'inventeur de l'authenticité, veut prouver donc que dans l'espace noir, dans le monde noir, il est le seul coq que l'on devrait respecter. Et donc j'amène par le biais de la fiction cette rumeur selon laquelle, grâce à la France évidemment, Senghor serait parmi les nommés pour le prochain Nobel de littérature.
C'est ce qui agace Mobutu.
Alors Mobutu est agacé, hein, je lui prête ce que j'appelle un peu le complexe du treillis. Il dit, lui il est militaire, mais bon, face à un académicien, un grammairien, il cherche une parade. Alors il lance un peu ce défi à ses conseillers, notamment le patron de Modéro, pour qu'on lui trouve la réponse pour le petit Senghor. Mais quoi de mieux
pour lui, Senghor est au service des Blancs. D'ailleurs, il a écrit cette phrase « J'ai rêvé de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus ».
Ah oui, mes frères aux yeux bleus, pour Mobutu, hein, dans le roman, parler des Blancs comme de ses frères aux yeux bleus, c'est anti-authenticité africaine. Et quoi de mieux, allais-je dire, que d'aller chercher la figure d'un autre grand prophète noir qui lui aussi n'en a que pour ses racines africaines, en l'occurrence Mohamed Ali, pour l'amener donc à Kinshasa, en mettre plein la vue à la planète entière, permettre de localiser en passant Kinshasa et le Zaïre de Mobutu, qu'il a rebaptisé 2 ans plus tôt, hein, faut-il le rappeler, à la carte du monde.
En tout cas, il y a du débat africain, comme on dit par ici sur RFI, dans votre roman, Blaise Ndala, entre Modéro et son acolyte Batekol, surnommé Afrodijazz. Extrait.
Si tu as fait la moitié de ton secondaire, Modéro, tu n'es pas sans savoir qu'il n'y a pas si longtemps, dans certaines villes d'Amérique, un blanc qui sentait les pipis pouvait être accepté par ses semblables dans un autocar réservé aux blancs. Mais pas un noir tiré à quatre épingles. Un tocard blanc qui ne connaissait pas le nom de l'apôtre qui avait vendu les fils de Dieu pouvait aller voir son pasteur flanqué d'une dévergondée ramassée dans un cabaret et demander d'être marié à l'église avant d'aller massacrer des pauvres Vietnamiens. Les pasteurs blancs les bénissaient, bien entendu. Mais si le même jour un couple de noirs, bien réglo et tout, capable de chanter l'Angélus en latin, s'est présenté aux portes de la même église réservée aux blancs, le même pasteur appelait la police pour qu'elle vienne leur botter les fesses. Si ce n'est pas une solidarité familiale et discriminatoire entre les blancs, ça, dis-moi ce que c'est. Mon gars, dans cette ville où nous nous trouvons, des noirs aussi noirs que toi et moi m'ont botté le derrière.
J'irai danser sur la tombe de Sangor. Merci pour cet extrait, Blaise Ndala. Mais en racontant cette histoire donc sur fond de mobutisme et qui est donc un trauma pour les Congolais ex-Zaïrois, qu'est-ce que vous souhaitez dire au Congo d'aujourd'hui? Parce que parler d'hier, on le sait bien, c'est parler d'aujourd'hui.
C'est parler d'aujourd'hui. C'est que je voudrais leur dire, c'est de faire attention à ne pas reproduire ce que nous avons fait hier, à savoir créer un monstre. On a créé le monstre Mobutu en l'adulant, en chantant sa gloire, moi y compris, en disant en Lingala, sentant, ça c'est la partie française, sentant Tomotombele, nous te choisissons pour 100 ans. On l'a défié. Et puis, le moment venu, le monstre s'est retourné contre nous. Hier, pareil, avec Joseph Kabila, à qui on donnait des titres raïs, ceci, cela, le père de la démocratie, le père, je ne sais pas, de la révolution, de la modernité, tous ces genres de conneries. Apparemment, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. On entend dans les milieux des Congolais qui sont favorables à son élection, à son pouvoir, Fatshi Béton, le père de Cécile Moïse. Ce sont autant de choses qui finissent par faire croire à l'homme politique, au dirigeant congolais, qu'il est infaillible, qu'il est indispensable. Personne n'est indispensable, si ce n'est la nation congolaise dans son ensemble.
Et puis il y a la notion peut-être de réussite qui travaille le continent d'une manière particulière. Je pense au fait que Mohamed Ali, qui a gagné le combat, en tout cas sous votre plume, il l'a gagné peut-être grâce au Ngolo et à Bakala.
Oui, 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 absolument. Vous parliez de superstition quelques minutes ouais. plus tôt. Il est inconcevable pour le Congolais type que quelqu'un, un athlète, un boxeur, si puissant soit-il, puisse remporter un combat de cette espèce sans que les ancêtres ou les esprits de mort et consorts, les fétiches, y jouent un rôle majeur. Donc voilà, c'est pour ça que...
Donc un peu de guêpe vivante et de carapace de tortue fera bien l'affaire dans la mixture.
Exactement, et c'est cette combinaison justement, selon Modéro en tout cas, qui va permettre à Mohamed Ali d'écraser Foreman. Autrement, de toute façon, tous les pronostics le disaient, les bookmakers ne pariaient pas un copec sur Mohamed Ali. Il était 7 ans plus âgé que George Foreman, qui lui était non seulement jeune, mais avait comme bilan 40 combats, 40 victoires. Donc,
mais ça dit quand même quelque chose de la notion de la réussite en Afrique est toujours sujette à discussion, à jalousie, à superstition.
À superstition, si ce n'est pas les fétiches, c'est tel pasteur qui a la bonne bénédiction, l'onction de ceci, il faut le voir, grâce à lui, vous obtiendrez le voyage, le succès, l'amour. Le succès est rarement vu comme le fruit tout simplement d'un travail et d'une abnégation. J'irai danser sur la tombe de Sangor, donc roman qui sort aux éditions Vent d'ailleurs, avec beaucoup de musique, la musique de Zaiko Langa Langa, qui pourrait être la musique de ce roman. S'il y a un signe de bonne santé à Kinshasa, c'est la musique. C'est la musique, oui, ça c'est clair. C'est la musique. Elle a toujours été là. Je pense qu'elle sera toujours là. Je ne sais pas, c'est entre l'anesthésiant et la drogue. Et je pense que ce peuple-là a besoin aussi de cette drogue qui le fait carburer, qui lui fait passer par-delà toutes les affres qu'il connaît, notamment du fait de ses dirigeants. Et oui, la musique, c'est un peu le fétiche ultime du Congolais et du Kinois, du Congolais en général, oui.
Mais là, il faut du vrai talent pour la musique. Alors, ça ferait un beau film, dites-moi ce roman, Blaise Ndala. Est-ce que vous avez des nouvelles de Rachid Bouchareb qui a acheté les droits de ce roman?
Oui, on se parle assez régulièrement.
Bouchareb, donc le réalisateur d'Indigène.
D'Indigène, oui, qui vit entre la France et les États-Unis. Et oui, on se parle pas dans les derniers jours, mais oui, je sais que le film est au niveau de la production. Donc on a écrit, lui et moi, le scénario, parce qu'il a voulu qu'on l'écrive ensemble. Il travaille tranquillement dans son coin, de toute façon c'est son film. Et puis le moment venu, je pense qu'un film comme celui-là ne passe pas inaperçu, nous saurons qu'est-ce qu'il nous réserve du côté d'Hollywood, parce que c'est là que ça se passe.
Rachid, si vous nous entendez.
Salut Rachid.
Et si on retournait dans votre mémoire d'enfant? Allons-y.
You are tuned to the English service of Radio RSA.
A.
A comme apartheid.
Évanouir, c'est formidable. Si je vous dis radio publique de la République sud-africaine, plus insectes, plus oiseaux, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Blaise?
Mais ça, c'est vraiment, vraiment mon enfance. Hein. C'est mon enfance. Je pense que mon père, s'il m'écoute, va sourire parce que je lui ai posé la question très, très longtemps quand j'étais jeune. On se réveillait le matin, il mettait cette radio et j'entendais ces sons-là, ces génériques, cette musique-là, mais je ne comprenais pas. Je savais que c'était la radio sud-africaine, mais je lui demandais, papa, ce son, qu'est-ce qu'il dit exactement? Pourquoi ils mettent ce son-là? Mais lui non plus ne savait pas à l'époque. Mais il écoutait souvent la radio sud-africaine. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en fait, on avait la radio de Mobutu, qui était une radio de propagande. Donc, on s'évadait. On écoutait Radio France Internationale. On écoutait les chaînes étrangères. Il écoutait beaucoup cette radio. Et c'est beaucoup plus tard, quand je suis arrivé en secondaire, et qu'un frère joséphite, un prêtre, qui a été le premier à m'initier au théâtre, nous a fait jouer une pièce, Les armes et les larmes de Soweto, que ça s'appelait. Et lui nous a expliqué en fait que ce son-là rappelait l'arrivée, selon la propagande sud-africaine, du régime d'apartheid, de l'arrivée des premiers colons beurs en 1652 dans la région de Montagne de la Table près de Cape Town, des premiers beurs qui, semblait-il, n'auraient trouvé pas âme qui vive, disons, à part les oiseaux, les insectes et consorts.
Des marécages.
Et voilà, il disait c'est des marécages, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait ni Zoulou, ni Kossa, ni autre, donc cette terre est à nous parce qu'elle était là, presque un culte, et qu'il a fallu la dompter et puis la mettre en valeur. C'était une découverte, mais très longtemps, pendant mon enfance, oui, je me réveillais au son de ce générique parce que mon père écoutait cette radio.
Donc le théâtre, en tout cas, a été là de façon précoce dans votre vie à vous, Blaise. Et à propos de théâtre, le nom qui va de soi pour vous, c'est celui de Sonny Laboutansi. Ah. Et puisque vous m'avez parlé précisément de sa pièce « Je sous-signais cardiaque », quel titre incroyable.
Ouais.
On va en écouter un extrait tiré du cycle de lecture de RFI qui se déroule chaque été en Avignon. Alors juste un petit mot, cette pièce, elle raconte les dernières heures de l'instituteur Mayo Bayanda, condamné à mort pour s'être opposé au puissant péronaste, un colon espagnol, Ebela Ebarra, qui est directeur général de l'enseignement. L'action se passe dans un pays imaginaire, le Lébango.
Bonsoir, monsieur Perrono.
Bonsoir, mon enfant. C'est le nouvel instituteur, j'imagine.
Oui, monsieur...
Salvatore Perrono.
Mayo Bayanda.
Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Merci.
Whisky, Sanzano, Martini ou Primus, monsieur l'instituteur?
Rien, merci.
Le vrai rien ou le rien des pygmées?
Le vrai. C'est un sale coin.
Mon paradis?
Vous n'êtes pas exigeant, monsieur Perrono.
Si, je me connais, je le suis et bestialement... Mais ici, je ne manque de rien. Les étrangers chez moi, c'est le pétrole qui les amène, je me trompe?
Non.
Ici, voyez-vous, monsieur l'instituteur, je suis tout, absolument tout.
Presque tout?
Absolument tout.
Ce n'est pas impossible.
Je suis le drapeau, la loi, la liberté, le droit, la prison, le diable et le bon Dieu, enfin... Vous voyez bien? Tout. Si bien que toute la région m'écoute et m'obéit, disons, aveuglément. Je crois qu'on vous a parlé de moi.
Pas pour ainsi dire.
Oh, quel malheur. Vous avez perdu beaucoup de temps parce que vous aussi, vous aurez à m'obéir.
Vous plaisantez beaucoup, monsieur Perrono.
Ah, vous croyez? Quel genre d'instituteur êtes-vous si vous ne pouvez pas piger un truc qui crève les yeux?
Je viens de trop loin pour ne pas devoir vous dire.
D'où venez-vous au juste?
Ah, monsieur.
Vous ne savez même pas d'où vous sortez?
D'où voulez-vous qu'un homme qu'on a toujours grignoté sorte? Sinon du fond de son odeur.
Alors pourquoi Blaise Ndala, vous avez été marqué, pensez-vous, par cette pièce de Sonny Laboutansi, Jeu sous-signé cardiaque?
Parce qu'on y retrouve cette gouaille caractéristique de l'œuvre de Sonny. Et moi, même si j'ai commencé à écrire jeune grâce à mon père et à lire énormément, c'est au contact de Sonny, en fait, au texte de Sonny, que je me dis qu'un jour, si je dois écrire pour de vrai, ça serait tellement bien que ce soit quelque chose qui résonne comme du Sonny.
Comme du Sonny, c'est-à-dire, alors, on parle d'une langue rablaisienne. On parle aussi d'une langue congolaise qui circulerait comme ça dans cette langue française.
Absolument, il y a ce côté rablaisien, mais il y a aussi, moi je sais que ça a été dit aussi, mais ce côté marquésien, parce que c'est quand je lis Gabriel Garcia Marquez un peu plus tard que je découvre toute la filiation qu'il y a derrière, et je vais devenir un grand lecteur de Marquez. Et donc moi, c'est des univers, et c'est une langue qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un auteur polyglotte? Où je vais rephraser la chose, qu'est devenu votre lingala à vous?
Mon lingala, il est toujours là, il est pratiqué presque quotidiennement. À Ottawa, j'ai quand même quelques amis congolais avec qui je peux parler en lingala. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et
mais
tout...
Mais est-ce que ça circule dans votre écriture?
Forcément.
De quelle manière?
C'est difficile à dire, mais je sais qu'il y a des phrases qui sont dans mes romans, qui sont une espèce de transpiration... De ce que j'ai envie de dire et de ce que je dis en réalité en lingala. Le lecteur lingalophone voit très 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 bien que ce n'est pas dit en français, même si les mots utilisés sont en français, mais que c'est dit en lingala. Et parfois c'est dit en kikongo aussi, parce que j'ai parlé kikongo avant de parler lingala.
Alors je ne sais pas si c'est dans la veine de Sonny Laboutansi que vous l'avez écrit, mais j'ai cru comprendre que votre deuxième roman, qui s'intitule « Sans capote ni kalachnikov », ça aussi c'est un titre, j'ai cru comprendre que ce roman faisait la guerre aux postures bien pensantes de ce monde. Rapidement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce roman?
Rapidement, c'est que, puisqu'il s'agit d'une satire, Sonny encore une fois,
ouais.
Ce qu'il dit simplement, qu'il faut parfois se méfier de la main qui donne, quoi. J'utilise un néologisme qui est l'ego-charité, donc cette charité qui commence et se termine par soi. Donc toutes ces bonnes gens, ces bonnes âmes, souvent, malheureusement, en Occident, mais pas que, qui se servent en quelque sorte de la pauvreté, de la misère, de l'Afrique, des Caraïbes, d'Haïti ou qu'on sort pour venir avec tout un tas de beaux projets sur papier, mais qui finissent par pratiquement se servir de la détresse des autres pour les déshumaniser à des fins de marketing politique, pour se refaire une image de marque lorsque les choses vont mal dans sa carrière. Et j'insiste sur le fait que c'est loin d'être manichéen. Hein. Dans le roman, on voit un footballeur d'origine congolaise qui joue au PSG, puis à Barça, et qui, lorsqu'il traîne plein des casseroles et que la justice lui court après et que les sponsors l'ont lâché, lui qui disait qu'il vivait en France, qu'il était français, qu'il votait à droite de la droite et emmerdait tout le monde, excusez-moi, se souvient qu'il vient d'un pays qui est en guerre et essaye de créer une fondation fantoche pour des enfants soldats démobilisés pour essayer de se refaire une virginité judiciaire. Donc il y a tout ce jeu trouble de la solidarité qui n'en est pas une.
Côté Zembe, Agassarayangati, Kete Zembe. Le petit et le grand couteau s'aiguisent mutuellement.
Ilhi ilbi hajimarayanda. Il ne faut pas se laisser submerger ni par la joie.
Y a-t-il un proverbe?
Ni par la tristesse.
Ou une devise qui gouverne votre existence?
Blaise, oui, vous avez le droit de réfléchir, c'est pas interdit. Sinon, moi, je peux vous aider, hein. N'oublie jamais de quel palmier tu es la brindille.
Ah, voilà.
Ça, c'est un proverbe qu'on peut lire dans votre roman « J'irai ouais. danser sur la tombe de Senghor » et que vous avez emporté apparemment dans vos multiples valises. Ça veut dire quoi dans votre cas?
Mais dans mon cas, de ne jamais oublier d'où je viens.
Oui, en même temps, on se transforme, hein, on le sait bien.
Oui, oui, mais si on se transforme en oubliant qui on était avant, je pense qu'on peut se perdre. Moi, je suis très bien dans mes multiples identités. Je suis africain, je suis congolais, je suis de l'ethnie Mbala, je suis Mukongo, je suis canadien, franco-ontarien. Je suis de culture, on va dire quoi, européo-africaine, judéo-chrétienne. Il y a plein de choses et je vis très très bien avec ça. Je ne me questionne même pas. Mais je n'oublie pas que je suis aussi le fils de Paul et de Anastasie, que je viens de ces deux enseignants qui n'avaient pas beaucoup, mais qui m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour que j'aille le plus loin possible. Et si j'oublie ça, je crois que je me fourvoie.
En tout cas, vous n'êtes sans doute plus ce jeune Quinois qui rêvait d'un Paris poétique en écoutant MC Solar. Vous n'avez pas choisi Paris, vous avez choisi Ottawa.
J'ai choisi Ottawa parce que, je l'ai dit souvent en taquinant mes amis français, et Dieu sait que la majorité de mes amis au Canada sont français. Je suis un francophile qui est passé d'une sorte d'adoration, parce que mon père était un grand francophile, l'est encore, fan, admirateur de Bernard Pivot, de Patrick Poivre d'Arvor et tous ces mondes-là, même de Mitterrand.
On a quand même mieux comme penseur, mais bon.
Oui, mais c'est lui, c'est son époque. Il est mordu de politique. Et à l'époque, Mitterrand était un peu la figure du père français à l'égard de la francophonie, machin. Donc, je grandis avec ça. Donc, j'ai été subjugué, évidemment, par la France, sa culture, sa richesse culturelle, qui est indéniable. Après, j'en suis un peu revenu aussi. En aimant la France, en la découvrant davantage, j'ai vu aussi comme une maîtresse que l'on côtoie de plus en plus, et ce côté un peu sombre, moins reluisant.
Vous êtes un amoureux déçu.
Mais oui, parfois elle me fait mal, et c'est parce que je l'aime que je la critique souvent.
À lire aux éditions Vendailleurs, J'irai danser sur la tombe de Sangor. Merci à vous, Blaise Ndala. Moi, je garderai votre image, cette image de vous avec ce pendentif autour du cou, représentant le continent. J'ai bien envie d'un petit rendez-vous avec Pierre Quenders, un chanteur canadien d'origine congolaise qui a l'air super.
Ouais, ouais, ça reste de la rumba, mais une rumba matinée a tellement d'influence. Hein. Et moi,
avec un petit accent canadien que vous n'avez pas.
C'est ce qu'on dit souvent, mais bon, les accents, ça ne se contrôle pas. On me dit, certains de mes amis, quand je retourne de France, où je viens souvent, ils me disent toujours « Là, tu ramènes ton accent parisien. » Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais oui, Pierre, c'est un bel ambassadeur de la rumba en Amérique du Nord.
Alela mokili moyo lolenge moto oyo omoi boise ko bipesa mela ye akosala salela tango epesa meli yo lolenge moto oyo ayebi ete lobi mokolo mwali wana ye koya
À réécouter en podcast sur votre application préférée. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, également en direct, et c'est ce qu'on préfère, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Samira Ibrahim. À demain.